RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, en colère, indigné, mais surtout désabusé, les responsables politiques maliens réagissent au maintien des militaires au pouvoir, alors que le Conseil des ministres a adopté la loi pour prolonger le mandat d'Assimi Goïta. Beaucoup de policiers, mais très peu de manifestants. Hier au Nigeria, le mouvement Take It Back n'a pas suscité l'engouement escompté, et vous l'entendrez, c'est finalement le président Tinubu qui a repris la main. Dans ce journal aussi, suite de la grève des médecins et des professeurs en Guinée-Bissau, l'avocate de Pascaline Bongo réagit à la nouvelle procédure contre sa cliente en France.
Et puis notre dossier ce matin consacré à la transhumance.
Et aux enjeux sécuritaires qu'elle représente en Centrafrique, notamment face aux violences entre éleveurs et agriculteurs.
Nous sommes installés dans une dictature militaire, plus personne n'en a le doute. Les mots de Mamadou Ismaïla Konaté ce matin.
L'ancien ministre malien et farouche opposant aux autorités maliennes de transition réagit après le maintien des militaires au pouvoir. Le Conseil des ministres a adopté mercredi un projet de loi pour accorder un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 au général Assimi Goïta. David Bachet, les responsables politiques maliens que vous avez joints expriment une colère aussi vive que désabusée.
Nous hésitons entre indignation et indifférence, décrit un ancien ministre, tant cela était prévisible et tant nous n'attendons plus rien des autorités. Alors qu'ils avaient promis de sécuriser et de réformer le pays avant d'organiser rapidement des élections, un dirigeant de parti dissous note que les militaires au pouvoir se révèlent être un autre genre de politiciens. Rappelant tous les calendriers électoraux souverainement fixés et souverainement violés, cette source interroge « Quel politicien civil a autant trahi ?» Plusieurs opposants notent le caractère anticonstitutionnel du projet de loi et d'un tel maintien au pouvoir sans élection, mais ne se font plus d'illusions. « La réelle intention des militaires est de rester au pouvoir », constate désabusé un ancien ministre. « Le reste n'est que de l'habillage. Au moment où nos soldats sont massacrés, ils ne pensent qu'aux délices que le pouvoir usurpé leur procure », fustige un autre ancien ministre, qui dénonce un nouveau coup d'État, cette fois-ci constitutionnel. « Le Mali vaut mieux qu'un mandat volé », poursuit ce pilier du mouvement pro-démocratie. « Mais le peuple, tôt ou tard, leur retirera ce qu'ils ont cru pouvoir garder par la force ». Nous abordons l'une des phases les plus sombres de notre pays, pose enfin un cadre de l'opposition, qui appelle à résister par tous les moyens possibles.
David Bachet, au Togo, une partie de l'opposition réclame la démission de Faure Gnassingbé. Les membres du CRAC, le cadre de réflexion et d'action pour le changement, une plateforme de partis politiques d'organisation de la société civile, parlent de l'échec du président du Conseil, notamment sur le plan social et économique. On y revient dans le prochain journal. Dénoncer la mauvaise gouvernance, la vie chère et l'insécurité. L'opposition au Nigeria devait le faire hier, mais finalement, le mouvement Take It Back a renoncé. Et c'est plutôt Bola Tinubu qui a repris la main. Le chef de l'État a pu prononcer un long discours à l'Assemblée nationale. Moïse Gomis, peu de manifestants donc. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient déployées en masse.
Des agents sécuritaires nigérians ont dissuadé sur tout le territoire toute manifestation considérée comme hostile par la majorité présidentielle. Leur présence massive, notamment devant les grilles du complexe de l'Assemblée nationale à Abuja, avait un sens, démontrer l'intention des autorités fédérales de ne pas laisser les voix discordantes du mouvement Take It Back prendre le dessus, en particulier en cette journée de célébration de la démocratie. Car devant un parterre de parlementaires des deux chambres, de gouverneurs, de ministres et même du chef de son parti, l'APC, le président Bola Ahmed Tinubu a longuement évoqué son attachement viscéral à la démocratie. Puis, il s'est félicité de ses résultats, très bons de son point de vue, après 2 ans de pouvoir.
Le produit intérieur brut a augmenté de 3,4% en 2024. L'inflation diminue progressivement, stabilisant le prix des denrées alimentaires de base, comme le riz et les haricots. Le taux de change du Naira s'est stabilisé.
Aucun mot en revanche du président Tinubu sur les doléances et revendications sociales exprimées par le mouvement Take It Back. Et pour clore son intervention à l'Assemblée nationale, le chef d'État nigérian a égrené les noms des personnes élevées aux différents titres nationaux de l'ordre du Niger. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Des médecins et des professeurs qui ne sont pas payés depuis des mois. En Guinée-Bissau, 5e jour de grève des syndicats de l'éducation et de la santé aujourd'hui. Ils réclament le versement de leur salaire et le mouvement prend de l'ampleur au point d'inquiéter la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme. Elle demande aux médecins d'effectuer le service minimum. Côté pouvoir, on est resté bien silencieux pour l'instant. Mais Eva Massi, le président, Oumaro Sissoko Embalo, a finalement pris la parole hier.
De retour au pays après une semaine de déplacement officiel, le président bissau-guinéen a répondu à la presse. Les journalistes le questionnent sur la grève en cours à l'hôpital de Bissau. Ils veulent savoir quand est-ce que les médecins percevront leurs salaires impayés. Certains attendent depuis 17 mois. Une demande que Sissoko Embalo juge incompréhensible. Le président affirme que le gouvernement a payé ses dettes envers les fonctionnaires et il ajoute qu'il est impossible d'augmenter les salaires dans la fonction publique, étant donné, dit-il, les engagements budgétaires avec le Fonds monétaire international. En attendant, la grève se prolonge, l'hôpital de Bissau peine à accueillir ses patients et les alternatives ne sont pas nombreuses. Boubacar Touré est président de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme.
Il y a des femmes enceintes qui n'ont pas pu être prises en charge. On est en pleine saison des pluies et les cas d'accidents et de maladies se multiplient. Il n'y a pas d'alternative, mis à part l'hôpital militaire de Bissau qui lui-même est limité dans ses capacités. L'autre solution, ce sont les cliniques privées, mais c'est trop cher pour la plupart des gens.
À 5 mois des élections, les syndicats espèrent se faire entendre. Le personnel de la justice s'est joint à la grève des professeurs et des médecins, qui dure maintenant depuis une semaine et pourrait se prolonger.
Eva Massi, eux réclament justice et la démission du numéro 2 de la police ont manifesté au Kenya hier. Vaste indignation dans l'affaire Albert Ojwang, ce jeune homme arrêté pour un tweet, critique des forces de l'ordre et mort en prison. À Nairobi, il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, alors qu'au même moment, le gouvernement présentait son projet de budget à l'Assemblée, un an après le projet de loi de finances contesté qui avait suscité la colère. On vous raconte tout sur RFI.fr.
6h36 en temps universel, Pascaline Bongo, visée par une nouvelle procédure judiciaire en France.
En plus de l'enquête dans l'affaire des biens mal acquis, la fille de l'ancien président gabonais Omar Bongo a désormais été mise en examen pour blanchiment de corruption d'agents publics étrangers. La procédure date du mois de janvier, mais on ne l'a appris que cette semaine. Un acharnement juridique pour l'avocate de Pascaline Bongo, maître Corinne Dreyfus-Schmidt.
Cette mise en examen récente de Madame Bongo est pour moi un non-événement. À partir du moment où on voit le nom de Bongo, on voit rouge et systématiquement, on s'acharne juridiquement sur Pascaline Bongo notamment. Alors, cette affaire démarre, il faut quand même le dire, le 3 juillet 2015, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'information en juillet 2015. Il se passe rien pendant 10 ans. Bon, donc vous imaginez bien que si on avait des éléments tangibles, on n'aurait peut-être pas attendu tout ce temps-là. Elle est mise en examen 10 ans plus tard avec un dossier qui est très lacunaire. On ne sait même pas la date précise des faits. Ça concerne une société hongkongaise et le Gabon. Bon, voilà, tout ça est extrêmement confus et on a saisi la chambre de l'instruction pour contester cette mise en examen et on attendra d'être convoqué. Je suis assez sereine puisqu'on a eu à peu près la même chose dans une autre affaire similaire il y a quelque temps et on a obtenu la relaxe de Pascaline Bongo.
Propos recueillis par Amélie Tullet et dans ce dossier, l'ancien conseil de Omar Bongo, l'avocat français Jean-François Meyer est aussi mis en examen. L'actualité en RDC, c'est une première depuis la prise de Goma par l'AFC M23. Bintou Keïta est arrivé dans le chef-lieu du Nord Kivu. La chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, doit rencontrer aujourd'hui Corneille Nanga, le dirigeant du groupe politico-armé. L'un des enjeux de la guerre dans l'est de la RDC, ce sont les minerais. Ils sont justement au cœur de la DRC Mining Week, grand raout des acteurs du secteur minier à Lubumbashi, avec une présence remarquée hier, celle de l'ambassadrice des États-Unis, Lucy Tamlin, en a profité pour exposer la nouvelle ambition économique de l'administration Trump, Alexandra Branjon.
Trop longtemps, nous avons été en retrait sur le continent, a reconnu l'ambassadrice américaine devant un parterre d'investisseurs, avant d'ajouter « Nous nous concentrons désormais sur une croissance portée par l'investissement et le commerce ». Les Américains veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement en minéraux nécessaires aux technologies de pointe, cobalt, coltan, lithium, et dont la plupart des gisements se trouvent dans l'est de la RDC. Pour y arriver, Lucy Tamlin a insisté sur la nécessité de rétablir la paix et appelé au retrait de toutes les forces étrangères du pays. Washington et Kinshasa négocient depuis plusieurs semaines un accord qui devrait permettre aux États-Unis d'accéder aux minéraux stratégiques de la RDC en échange d'une aide pour résoudre le conflit avec le groupe armé AFC M23. Avec cet accord, Washington espère pouvoir prospecter dans la région. Les Américains disent avoir investi plus de 6 milliards de dollars dans le corridor de Lobito, la rénovation d'une ligne ferroviaire allant de la Zambie à l'Angola via la RDC, qui permettrait d'exporter les ressources minières de ces trois pays.
Et pendant que les États-Unis avancent leur pion en Afrique, la Chine, elle vient de faire une annonce forte. Elle va supprimer tous les droits de douane sur les exportations des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Les détails à lire sur RFI.fr. On passe à présent au dossier d'Afrique Matin, dans lequel on s'intéresse à la transhumance, une activité de plus en plus dangereuse à cause des violences entre agriculteurs et éleveurs. Elles font parfois des morts dans plusieurs pays africains. C'est le cas par exemple en Centrafrique, un phénomène documenté par l'International Crisis Group dans un rapport publié récemment. Penaï Traoré, d'après les chercheurs, au-delà du conflit classique entre éleveurs et agriculteurs, le pastoralisme est devenu un véritable enjeu sécuritaire.
Premier constat, les pratiques pastorales se sont militarisées au fil des ans. Face à de nouveaux acteurs qu'elle accuse de connivence avec les groupes armés, la Centrafrique voit la transhumance comme un possible facteur de déstabilisation et donc comme un enjeu de souveraineté. Pour International Crisis Group, cela a conduit à marginaliser les acteurs du secteur, mais aussi les territoires et infrastructures de transhumance. Conséquence, selon le rapport, les éleveurs désertent les routes, favorisant le passage du bétail dans les champs des populations sédentaires, au risque de représailles. Autre point essentiel relevé dans le document, la transhumance en tant que mode de vie culturel et identitaire est en train de glisser vers une pratique beaucoup plus économique et spéculative. ICG parle de néo-éleveurs, ces entrepreneurs pastoraux qui confient le transport de leur bétail à des bouviers lourdement armés pour assurer la protection des troupeaux. Ce procédé très répandu au Tchad gagne de plus en plus la Centrafrique. Il implique des hommes d'affaires, des politiques, des notables et des cadres de l'armée selon l'ICG. Le rapport note aussi l'afflux d'éleveurs étrangers. En plus des transhumants habituels qui parcouraient les couloirs centrafricains, il faut désormais compter avec le bétail venu du Sahel, notamment du Niger, de la Mauritanie ou du Nigeria.
Alors il y avait bien eu un accord de paix signé à Khartoum en 2019 pour sécuriser les couloirs de la transhumance, mais le projet n'a jamais vraiment abouti. International Crisis Group propose ainsi plusieurs solutions. Réhabilitation des infrastructures pastorales, coopération régionale, mais aussi le retour de l'État centrafricain comme régulateur dans les couloirs de transhumance. Écoutez Fulbert Ngodji, il est chercheur à l'International Crisis Group.
Tout le monde a demandé le retour de l'État, la sécurité. Sans sécurité, il n'y aura pas de volonté de dialoguer pour trouver des solutions communes aux défis que pose la transhumance. Donc, le rétablissement de l'État est très, très primordial. Il est aussi important de répondre aux besoins des acteurs impliqués dans la transhumance. C'est vraiment essentiel. Mais il faut aussi que les populations locales, en fait, qui vivent la transhumance avec beaucoup d'angoisse, qu'elles voient dans la transhumance quelque chose qui change, en fait, un peu leur situation, en ce sens qu'il faut que les taxes qui sont perçues par la transhumance permettent, par exemple, de faire fonctionner les hôpitaux locaux, les écoles, donner le moyen aux acteurs concernés, aux éleveurs ou bien aux agriculteurs ou concernés en fait de dialoguer eux-mêmes. Et à ces sujets, nous avons identifié que l'expérience du RBM, qui est le réseau Binital Marobé, qui existe déjà au Sahel, c'est quelque chose qu'il est possible de répliquer en Afrique centrale. C'est une association d'éleveurs qui permet déjà aux éleveurs en fait de peser sur les politiques publiques, et la Fédération nationale des éleveurs centrafricains en fait qui pourrait peut-être s'élever davantage, prendre un leadership sous-régional pour intégrer non seulement la question des peules, mais aussi des étrangers qui arrivent, parce que c'est un flux dont la Centrafrique ne pourrait pas s'en départir. Il faut trouver les moyens de les réguler.
Le chercheur à l'International Crisis Group, Fulbert Ngodji, au micro RFI de Penaï Traoré. Dans l'émission Un jour au village, vous pouvez retrouver cet entretien en intégralité. Rendez-vous demain à partir de 13h10, temps universel. Un mot de sport avant de refermer ce journal, et de l'athlétisme avec la belle performance de Marie-Josée Talou hier du côté d'Oslo. L'Ivoirienne a pris la deuxième place du 100 mètres sous les yeux d'Usain Bolt. Rien que ça, elle termine derrière la championne olympique de Sainte-Lucie, Julian Alfred, qui elle a franchi la ligne en 10 secondes 89. A noter aussi la victoire du champion en titre Emmanuel Wagnoni au 800 mètres chez les hommes. Le journal des sports, c'est dans pile une heure sur RFI.
Merci Arthur Ponchelet, on vous retrouve tout à l'heure.